Alors, bonjour, docteur Vincent. Comme nous discutions à l'instant, l'intérêt de cette série d'entrevues vise l'histoire de la symétrie, de la brisure de la symétrie des répliques en physique, plus ou moins que l'on borne de 1975 à 1995. Mais avant de se plonger dans le vif du sujet, j'aimerais poser quelques questions sur vos antécédents personnels. Tout d'abord, pouvez-vous me donner quelques indices sur comment vous êtes intéressé à la science, et ensuite, qu'est-ce qui vous a amené à poursuivre des études supérieures en physique nucléaire expérimentale?
Je dois dire que j'ai toujours aimé comprendre, essayer de comprendre un peu ce qui se passe autour de moi, comprendre les phénomènes. Quand j'étais enfant, par exemple, pour mes cadeaux de Noël, bon, j'ai eu un train électrique, bien sûr, mais assez vite, j'ai eu un coffret du petit chimiste et puis du petit électronicien, je crois, après. Et pour la chimie, par exemple, mon père m'avait laissé m'installer dans un petit coin de la salle de bain, par-dessus la baignoire. Je laissais tomber mes produits chimiques dans la baignoire et je faisais des petits mélanges et ça m'amusait. Enfin, bon, j'avais déjà un intérêt pour ça. Et puis, j'étais nourri aussi un peu par l'imagerie de. J'étais assez admiratif de l'image du savant dans la bande dessinée. Vous savez, par exemple, Blake et Mortimer, les bandes dessinées d'Edgar P. Jacobs, où on voyait des savants avec des blouses blanches qui travaillaient sur d'énormes machines dans des sous-sols extraordinaires. Ça me paraissait très enviable. Je me disais, ils font des choses très intéressantes. Donc, enfant, j'avais déjà un peu envie de ça. Dans mes études, j'ai été intéressé par beaucoup de choses. La littérature m'intéresse beaucoup. J'aurais peut-être volontiers fait un choix littéraire. Mes parents m'ont dit non, non, fais des mathématiques, comme ça, après, tu pourras faire tout ce que tu veux. Et j'ai fait des maths et de bon cœur, je veux dire, au lycée, j'ai eu de la chance, j'ai eu des profs qui étaient bons, qui étaient pédagogues. Je me souviens d'un prof qui nous a expliqué la théorie des ensembles, mais dans les classes quand on est adolescent, hein. Et puis voilà, les maths me plaisaient beaucoup. J'ai passé le bac, je pouvais rentrer dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Je ne savais pas très bien ce que c'était, mais je comprenais que c'était la manière de poursuivre des études assez intensives avec des bons profs dans des classes de nombre limité, hein, faire ce qu'on appelait les classes préparatoires, maths sup et maths spé. C'était être dans une classe de 25-30 élèves par rapport à aller dans un grand amphi de l'université, ça me plaisait bien. Et donc, je suis allé en maths sup, en maths spé, j'ai passé les concours. Et puis, je suis allé dans l'école la plus renommée que j'ai pu réussir. Hein. Ce n'était pas la numéro 1 ni la numéro 2, mais c'était peut-être la troisième, la quatrième, je ne sais pas, l'école centrale. Dans laquelle j'ai passé 3 années très, très agréables. Et je ne savais toujours pas très bien ce que je voulais faire. Et là, j'ai commencé à me poser la question. J'étais en contact avec le monde industriel, puisque c'était une école d'ingénieurs, tout en étant une école avec un bon niveau scientifique. Et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était de rentrer dans le monde universitaire que je commençais à découvrir un petit peu à travers les laboratoires de recherche, où je pouvais j'ai fait des stages ou des travaux pratiques. C'était ça qui me plaisait. Alors, à un moment, il y a des gens du CEA qui sont venus nous proposer des thèses. Ils sont venus à l'école faire des exposés sur leur sujet de recherche en demandant, est-ce que vous voulez venir faire une thèse? Ça m'a décidé. Il y a une proposition en physique nucléaire. C'était de la physique nucléaire expérimentale, avec un accélérateur d'électrons à Saclay, dans le centre de recherche du CEA, qui est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives maintenant. J'ai choisi cette thèse sans avoir comparé beaucoup avec d'autres domaines de recherche. Ce qu'on m'en avait expliqué m'avait intéressé, le chercheur était sympathique, j'ai rendu visite à son équipe, ça avait l'air très stimulant. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à démarrer une thèse en physique nucléaire des énergies intermédiaires.
Et vous avez, durant votre thèse même, vous avez rejoint le CEA comme permanent. Et pour un nombre d'années après la thèse aussi, vous avez continué à travailler sur la physique nucléaire. Quelles questions poursuiviez-vous alors? Quels étaient vos intérêts?
Bon, la thèse, c'était un contrat temporaire, mais qui durait 5 ans à l'époque, puisqu'on faisait une thèse d'État. Donc, on se sentait vraiment déjà intégré dans le laboratoire pour une bonne durée. Et puis, alors, j'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir être recruté juste après ma thèse, ce qui est exceptionnel actuellement. Parce qu'il n'arrive plus actuellement, pratiquement. Alors, les questionnements, il s'agissait d'essayer de comprendre les mécanismes de production des maisons Pi à partir de noyaux qui étaient les plus simples possibles. J'ai étudié l'hydrogène, le deutérium, l'hélium-3, l'hélium-4 essentiellement. Donc, on pouvait essayer de déterminer quel rôle jouait chacun des quelques éléments du noyau, un ou deux protons ou neutrons. Et en comparant les résultats, donc moi j'étudiais la production de Pi0. Alors, on faisait ça en envoyant des photons de haute énergie. Ces photons étaient produits, parce qu'on ne fait pas d'accélérateur de photons, hein. On avait un accélérateur d'électrons, les électrons se crachaient dans une cible, il en sortait quantité de trucs, y compris tout un spectre de photons, et on envoyait comme ça les photons sur la cible, et puis en comparant ce qui se passait sur un noyau qui avait un neutron de plus ou de moins. On essayait de comprendre le mécanisme de production du Pi0 juste à la limite du seuil, donc c'était aux alentours de 135 MeV. C'était ce qu'on appelait des énergies intermédiaires à l'époque. Ces questionnements me paraissaient très compliqués, c'est-à-dire les théories qu'il y avait derrière pour comprendre ce qu'on observait étaient difficiles d'accès. En fait, il y avait une séparation assez nette entre le monde des théoriciens et le monde des expérimentateurs. Et il y avait des théoriciens avec nous. On leur donnait des mesures de section efficaces. Ils rentraient ça dans des gros programmes. Ils comparaient ça avec leurs prédictions. C'était intéressant, mais au bout de quelques années, j'étais un petit peu frustré. Du fait que la physique du problème, la physique profonde du problème, échappait un peu à mon activité de tous les jours. Alors, l'activité de tous les jours était tout à fait intéressante, de s'occuper de ces faisceaux de particules, des problèmes de détecteurs. J'ai fait du Monte Carlo à l'époque pour. On calculait l'efficacité de géométrie d'un détecteur en le modélisant et en tirant au hasard des réactions dedans. C'était amusant. Et puis, voilà, chercher à comprendre ce qui se passait en coïncidence entre les différents détecteurs. C'était passionnant. Mais la physique qui était derrière était quand même très compliquée et un peu peut-être lointaine par rapport à. Je trouvais que ça n'améliorait pas énormément ma compréhension du monde, quoi. Et puis voilà, toutes ces grosses théories du noyau étaient vraiment compliquées. Alors, je sais pas si j'embraye
Oui,
sur la
mais
question
justement,
de
dans ce
l'entrée.
contexte, quand avez-vous entendu parler des vers de spin la première fois?
Voilà,
Et qu'est-ce
voilà.
qui vous a intéressé par ce sujet?
Attends, j'ai perdu votre image, mais elle ne doit pas être loin. Voilà, elle est là. J'ai fait exprès d'aller chercher ailleurs. Donc, j'ai démarré ma thèse en 75, je l'ai passée en 80, 5 ans après. En 80, j'ai été recruté au CEA et j'ai continué à travailler environ 5 ans en physique nucléaire. Bon, on a fait une chose au passage qui était assez amusante, c'est que On a fabriqué un faisceau de positrons à partir du faisceau d'électrons qui se crachait dans une cible et qui produisait donc tout un tas de choses. On sélectionnait les positrons. Et avec ça, on a pu faire un faisceau bien contrôlé de positrons. Et les positrons, par annihilation dans une cible bien choisie, donnaient une paire de photons qui partait à 180 degrés dans le centre de masse. Alors, il y en avait toujours un qui était un peu de côté et de plus faible énergie, qu'on pouvait détecter et qui servait d'étiquette à celui de plus forte énergie qui partait devant. Et donc, avec ce système d'étiquetage de photons, on a donc fait un système de photons monochromatiques, en somme. Ils n'étaient pas exactement monochromatiques, mais ils étaient étiquetés par leur cousin, chacun. Et donc ça a ouvert pas mal de possibilités. Donc c'était chouette, mais bon, voilà. Dans les années 84-85, un jour j'ai assisté à un séminaire qui a été un peu déclencheur pour moi. C'était un séminaire donné par Pierre Berger, qui était physicien au CEA à l'époque et qui travaillait sur les questions de chaos. Donc de transition vers le chaos. Alors, il donnait des séminaires où il montrait des petits systèmes chaotiques très simples, des pendules couplées, des choses comme ça. Il expliquait que avec quelques équations très simples, on pouvait partir vers des solutions chaotiques avec une forte sensibilité aux conditions initiales, des trucs qui Et puis, il a parlé de physique du désordre un petit peu. Ce n'était pas sa spécialité, le désordre, mais il en a parlé un peu aussi. Et moi, ça m'a passionné. Je me suis dit, tiens, alors voilà un truc qui est vraiment… J'aimerais bien faire ce genre de choses. Alors, je me suis dit, après tout, j'ai un poste permanent au CEA. Le CEA, c'est grand. Je peux peut-être essayer d'aller dans un autre laboratoire. Et de fait, ça a été possible de bouger. Alors, je suis allé voir des gens de l'entourage de Pierre Berger. Bon, ils n'étaient pas forcément très intéressés par la venue de quelqu'un avec mon profil. Et puis, quand même, j'ai rencontré d'autres gens. Alors, j'ai rencontré quelqu'un dont vous avez fait l'interview aussi, qui s'appelle Jacques-Michel Amann, qui m'a parlé des vers de spin. Alors, et lui, le contexte était qu'il cherchait à renforcer son groupe à ce moment-là. Donc, un volontaire était bienvenu. Alors, il m'a expliqué, j'avais jamais entendu, presque, entendu parler quoi, de ça. Il m'a expliqué devant un tableau, il m'a fait quelques rappels, il m'a dit voilà, le ferromagnétisme comme ça, l'antiferromagnétisme comme ça, si on met des interactions désordonnées, eh ben, peut-être il se passe quand même quelque chose et on peut définir un paramètre d'ordre et il y a des phénomènes qui sont reproductibles et qu'on peut mesurer. Et alors, ça m'a beaucoup plu. Cette idée que, voilà, la physique statistique, déjà, c'est pour moi, la démarche de la physique statistique, c'est déjà quelque chose d'intellectuellement très intéressant, quoi. Partir des propriétés élémentaires et puis essayer de faire des moyennes jusqu'à arriver au comportement macroscopique, ça, je trouve que c'est assez satisfaisant pour l'esprit de réussir à faire ça, quoi. Alors, réussir à le faire dans des systèmes désordonnés, j'ai trouvé que c'était un défi vraiment intéressant, quoi. Et puis, j'ai vu que dans le groupe de Amann, il y avait toute une activité à l'époque. Il y avait Catherine Papa qui terminait sa thèse, qui l'a faite sur les vers de spin. Michel Alba qui était en train de faire la sienne. Il y avait Miguel Ossio qui est un physicien remarquable, qui malheureusement est décédé il y a 20 ans maintenant, je crois. Enfin, qui était un type formidable. Il y avait un environnement dans le laboratoire. Techniquement, c'était intéressant. Par exemple, il y avait à côté des laboratoires de physique, il y avait un laboratoire de cryogénie dirigé par Patrick Paris, qui travaillait main dans la main avec les physiciens pour construire des réfrigérateurs sur mesure, en répondant aux exigences des expériences. On pouvait avoir nos frigos construits sur mesure, interagir avec la personne qui les faisait. Ces manips, par rapport à ce que je faisais en physique nucléaire, où on travaillait dans une sorte d'usine, ces manips se faisaient sur une table, Il suffisait de mettre de l'hélium liquide dedans. À l'époque, il était déjà payant, mais on ne le payait pas directement. Il était attribué au laboratoire. On pouvait mettre de l'hélium dans le cryostat quand on avait envie de faire une expérience. Il n'y avait pas besoin de déposer un projet à l'ANR pour demander si cette idée était suffisamment intéressante pour qu'on achète de l'hélium. Donc c'était génial. On mettait de l'hélium dans le cryostat et puis on testait l'idée qu'on avait eue la veille. On augmente le champ magnétique, on refroidit brusquement, on refroidit plus lentement. On regarde ce que ça donne, quoi. Alors ça m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai demandé au CEA de me laisser aller dans ce laboratoire et ça s'est relativement bien passé. Et donc, j'ai redémarré un peu une deuxième carrière en 85, c'était l'année de mes 32 ans, voilà, c'était pas trop tard. Mais en quelque sorte, j'avais quand même un peu, j'avais pas perdu du temps, mais j'arrivais un peu vierge de compétences dans ce domaine, hein. Par exemple, en physique nucléaire, je commençais à être sur le point de pouvoir peut-être diriger des thèses. Et puis là, et puis je donnais des séminaires, j'étais invité dans les conférences. Et là, je redémarrais dans un nouveau domaine où bon, bah, il fallait apprendre quoi, et découvrir et prendre patience. Donc il y a eu quand même quelques années de redémarrage comme ça. Je suis allé suivre en auditeur libre les cours du DEA de physique des solides à Orsay, par exemple, pour approfondir un peu. Et puis, eh ben, j'ai appris, et puis après quelques années, j'ai pu de nouveau avoir des résultats et pouvoir les présenter dans des conférences. Mais il y a eu une petite période de latence quand même.
D'un point de vue technique, est-ce qu'il y a quelconque expertise que vous avez pu transférer de la physique nucléaire à la physique des vers de spin ou c'était vraiment complètement différent là aussi?
Oh ben, si dans la démarche de l'expérimentateur, il y a quelque chose qui est, il y a une connaissance générale quand même, si vous voulez savoir traiter des données, savoir faire des ajustements, avoir une certaine rigueur dans la procédure, tout ça, les 10 années d'expérience étaient absolument utiles. L'électronique qu'on utilisait en physique nucléaire était de nature assez différente. On traitait énormément de signaux online directement pendant l'expérience, donc avec de l'électronique rapide. Donc ça, c'était un peu différent. Bon, enfin, savoir utiliser un voltmètre, un oscilloscope, chercher une panne dans un circuit. Ça se fait partout. La cryogénie, j'en avais connu un peu en physique nucléaire, mais parce qu'on avait des cibles d'hydrogène, de thorium, hélium liquide. Mais là, le travail était plus compartimenté. C'était une équipe spécialisée qui s'en occupait. Et j'avais jamais manipulé des bouteilles d'hélium liquide moi-même, par exemple. Là, j'ai appris à le faire. Bon, donc dans le détail, il y avait des spécialités un peu différentes à trouver. Enfin, aussi, pour tout ce qui concerne les basses températures, il faut apprendre à faire des montages dans lesquels les branchements sont faits avec des fils très petits, de manière à conduire à perdre le moins possible de chaleur, quoi, à faire le moins de fuite thermique. Donc il faut faire des choses qui sont de l'ordre de l'horlogerie, un peu très minutieuse. Alors ça, j'aime bien, au fond. Moi, je me sens plus à l'aise à faire des toutes petites soudures sous la loupe que à démonter de la grosse mécanique avec des énormes outils. Donc ça, c'était un peu différent et ça me plaisait.
Vous avez mentionné les cours que vous avez suivis en auditeur libre à Saclay. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de cette éducation qui impliquait une compréhension, un développement des idées de la brisure de la symétrie des répliques, ou c'était en études personnelles, ou comment est-ce que vous êtes familiarisé avec cet aspect de la théorie?
Ah non, il n'y avait rien de ce genre à ce niveau-là. Donc c'était le DEA, l'équivalent du Master 2 actuel. Et non, c'était des cours assez généraux de physique du solide, de physique statistique, des semi-conducteurs. Mais les systèmes
Vous n'avez pas de
désordonnés,
suivi de cours avec Bernard Derrida, par exemple, qui, je pense, enseignait.
Si.
Oui.
Alors, ça. Si, en effet. Si, en effet, vous avez raison. Alors, ça, ce n'était pas dans le cadre du débat de physique des solides. Oui. Bernard Derrida a donné un cours on appelait ça des cours de deuxième, comment dire, c'était les cours de début de doctorat pour les gens qui démarraient leur doctorat. Donc, c'était des cours d'accès libre. Oui, Bernard Derrida a fait un cours sur les verbes de spin, je m'en souviens très bien, à l'école normale, rue Laumont. Alors, ben, ça devait être à peu près à l'époque où je commençais, 86, 87. Et oui, j'y suis allé. Donc, dans ce cadre-là, les cours offerts aux doctorants qui ne rentraient pas dans le cadre du passage du diplôme du DEA. Et le cours de Bernard Derrida était déjà très, très bien. Il a toujours été un pédagogue formidable, hein. Et ces temps-ci, il fait un cours au Collège de France, qui est très bien aussi, je dois dire. Donc, moi, j'aime bien.
Alors, quand vous êtes finalement engagé ou réengagé avec les expériences, quelles questions physiques en particulier poursuiviez-vous à ce moment-là?
Alors, au départ, c'était la question de la nature de la transition vers de spin. Donc, je me suis intéressé au vers de spin parce qu'il y avait un environnement favorable. Amann et ses collègues m'ont mis entre les mains ce qu'il fallait pour travailler là-dessus. Et il y avait deux aspects, mais le premier auquel je me suis attaqué, c'était la nature de la transition. Est-ce que c'est un point critique ou pas? Donc, les premières manips que j'ai faites, c'était des manips de susceptibilité alternative, dans lesquelles on examinait soigneusement comment la température de gel du verre de spin changeait avec la fréquence d'observation. Et si on fait ça sur une assez large gamme de fréquences, ben on peut observer, on peut chercher à tester des lois d'échelle sur le. Puisque s'il y a une transition de phase, il y a divergence d'une longueur de corrélation en approchant la température critique par le haut. Et dans les hypothèses de scaling dynamique, on considère que les temps de réponse marchent comme la longueur de corrélation avec un exposant Z. Donc, et la fréquence, c'est comme la fréquence de la susceptibilité alternative, c'est comme l'inverse du temps de réponse. Donc, on a testé des lois d'échelle et on a trouvé que les lois de ralentissement critique avec un exposant Z nu étaient celles qui rendaient le mieux compte des résultats. Donc, on a dit, voilà, ça, c'est comme dans un cas critique. Et puis immédiatement après, d'ailleurs, sur les mêmes échantillons, j'ai démarré. Alors tout ça, c'était avec Michel Amann et Miguel Ostio, qui me guidaient. Hein. Moi, j'étais complètement. Je connaissais pas grand-chose. Ensuite, on a cherché à étudier la transition du point de vue statique. On s'est dit bon, alors quel est le paramètre d'ordre? Bon, c'est un peu compliqué, mais bon, ben, on peut établir que la susceptibilité du paramètre d'ordre, c'est la susceptibilité non linéaire dans le cas du ver de spin. Donc, j'ai fait des mesures de susceptibilité non linéaire à l'approche de TG. Alors, ça, c'est difficile parce que la principale partie de la mesure, c'est le linéaire. Donc, il faut essayer pour faire des fits en fonction de la valeur du champ pour extraire la partie non linéaire. Et puis, on regarde sur des intervalles de température si ça a l'air de diverger. Alors, naturellement, on n'observe jamais une divergence dans une véritable expérience, mais enfin, on regarde la pente, on regarde si ça colle bien à une loi d'échelle critique. Et on a trouvé comme ça des exposants critiques statiques qui étaient à peu près cohérents, enfin, qui étaient bien cohérents avec les résultats de la dynamique. Dans le même temps, il y avait des tas d'autres gens qui s'intéressaient à ça, hein. Et juste à côté, il y avait Hélène Bouchia au laboratoire de physique de solides d'Orsay, qui faisait sa thèse et qui travaillait aussi sur le comportement critique des vers de spin. Elle a eu des très beaux résultats sur le comportement critique en fonction de l'anisotropie dans un système argent-manganèse qui était dopé avec un petit peu d'or. On était en contact régulier avec Hélène Bouchia, avec Philippe Monod, avec qui elle travaillait. Miguel Ossio en particulier était beaucoup avec eux. Et donc voilà, il y avait une petite émulation sur la question du point critique. Je peux citer aussi des relations avec Grenoble sur ce sujet, parce qu'il y avait Jean-Louis Tollens, Jean Soulty, puis d'autres gens, Laurent Lévy peut-être déjà à l'époque, qui s'intéressaient aussi à ces questions, et en particulier à la dépendance en fréquence. Jean Soulty a fait, s'est intéressé à comparer les vers structuraux et les vers de spin. Dans le vers structural, on peut regarder comment évolue la viscosité en fonction de la température. La viscosité, c'est un peu comme l'inverse d'un temps. Donc, on peut regarder dans des graphes dits graphes d'Arrhenius comment la viscosité diverge en approchant, enfin en baissant la température. On regarde les mêmes choses en susceptibilité alternative dans les vers de spin et on compare les graphes. Jean Soulty a fait un papier très bien avec Dominique Bertrand de Toulouse là-dessus, dont j'ai encore utilisé des résultats récemment parce qu'ils sont très, très illustratifs. Donc ça, c'était la problématique transition de phase et on concluait bravement en disant, c'est comme une transition de phase thermodynamique, ça a toutes les caractéristiques. Ça,
Pouvez-vous nous
c'était le
donner
premier point.
un peu plus de perspectives sur comment ces interactions-là avaient lieu? C'était des gens qui se retrouvaient tous au CEA ou comment est-ce que ça fonctionnait, ces équipes multidisciplinaires et multicentres à l'époque?
Ah, oh, avec Orsay, c'était vraiment très facile parce que il y a 2 km de distance. Donc, et puis, Hélène Bouchia commençait à développer avec Miguel Ossio un projet de manip assez original pour mesurer les fluctuations spontanées de l'aimantation. C'était même très original et très difficile. Hélène était souvent au labo. Philippe Monod venait souvent discuter aussi. Et puis nous, on allait chez eux également. Enfin, c'était vraiment juste à côté. On pouvait aussi se rencontrer à l'occasion de séminaires, mais c'était vraiment des contacts plus directs que ça. Il y a eu des directions de thèse en commun aussi. Par exemple, chez nous, Philippe Réfrégier a commencé sa thèse. Vers 86-87, donc il y a eu beaucoup de manip. Moi, j'ai fait beaucoup de manip avec Philippe Réfrégier. Et son directeur de thèse, c'était Philippe Monod. Alors, Philippe Monod venait tout le temps. C'est des gens qui prenaient le temps, quoi, qui prenaient le temps de discuter profondément, de poser les bonnes questions, d'examiner les résultats. Ça, c'était facile. Et avec Grenoble, bah, c'était un peu plus loin. Il n'y avait pas encore le TGV, je pense, à l'époque. Mais on se rendait visite quand même. Et puis, il y avait des. Soulty a organisé des mini-colloques aussi, quelquefois, pour rassembler les gens. À Grenoble, à Jussieu, une fois, je me souviens.
Et avec les théoriciens de la région parisienne à cette époque-là, donc Derrida et bon les gens de l'IPHT.
Ouais. Alors ça, c'était assez intéressant. Bon, il y avait effectivement. À proximité, dans le même bâtiment, il y a l'IPHT. Et puis, à Paris, l'école normale. Il y avait des gens qui étaient un peu à cheval entre l'école normale et l'IPHT. Localement, à l'IPHT, bon, il y avait Cyrano de Dominicis qui travaillait sur ces questions. Et on le rencontrait régulièrement. On lui expliquait ce qu'on faisait. Il nous expliquait ce qu'il faisait, qui était très compliqué. C'était vraiment très sympathique, mais c'est pas allé beaucoup plus loin. Quelqu'un avec qui ça a commencé. Alors Bernard Derrida, il était peut-être même plus ou moins à sa clé à cette époque-là, je sais plus. Bon, je l'ai, à part son cours, je l'ai pas beaucoup rencontré à cette époque-là. Mais on a commencé à rencontrer Marc Mézard. Alors, il revenait probablement de son époque sabbatique à Rome. Il venait de sortir le bouquin en 1987, là, avec Virasoro, Parisi, tout ça, qui résume, qui donne les bases de la brisure de symétrie des répliques. Donc, Marc Mézard, il avait tout ça en tête de manière très claire. Et il avait envie de voir ce qu'on pouvait observer dans les expériences. C'est lui un peu qui a pris contact avec nous. Je crois la première fois, il a invité Hamann à venir donner un séminaire à l'école normale. Amman a présenté un certain nombre de résultats et il y a eu des discussions intéressantes. Et ben voilà, ça s'est fait principalement avec Marc Mézard. Alors attends, il y a eu aussi Nicolas Sourlas, avec qui j'ai eu pas mal de discussions. Voilà, c'est les noms qui me reviennent dans les médias. Mais le pont, les liens avec les théoriciens se sont établis, se sont construits progressivement, en somme. Ce sont un peu deux mondes qui se sont rejoints. Et j'ai eu un peu la chance que ça s'est rejoint à l'époque où j'y travaillais. Donc c'était très, 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 très stimulant, très intéressant.
On va y revenir. Je l'ai posé avant la question. Donc vous avez rejoint le domaine un peu à l'époque aussi des grands débats sur les droplet scaling theory
Ah ben
de
oui.
Hughes et Fisher. Est-ce que vous avez été un peu conscient? Et si oui, pouvez-vous nous décrire un peu comment ça
Oui.
s'est joué
Ah oui, bien sûr. Bah, le, je me souviens quand les, quand les, quand les très, bon, Fisher et Hughes, le droplet model, ils ont fait une première PRL en 86, je crois, que j'avais peut-être pas trop remarqué, mais j'ai remarqué les deux articles fleuves de 1988, je crois, hein. Et j'avais un préprint de l'un des deux articles entre les mains dans un séminaire à Saclay. Et à côté de moi, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, ça vous intéresse, ça? Je suis David Hughes !» C'était rigolo. Moi, j'ai commencé à regarder ça. Bon, donc c'est un peu anecdotique, on a juste discuté un petit peu. Mais oui, en effet, on s'est plongé dans la compréhension du droplet modèle, qui avait l'avantage quand même d'être une approche phénoménologique relativement accessible, quoi, pas très lourde du point de vue mathématique. Il y avait des arguments généraux faciles à saisir, je veux dire. Donc, on a été évidemment très intéressés. Et puis, bon, alors il y a eu des rencontres avec Daniel Fisher dans des colloques principalement, mais je pense qu'il est venu à Saclay aussi, oui. En tout cas, on était en contact direct avec lui, on s'écrivait des mails. Hein. Voilà, il y avait des contacts. Et il y a eu, mais c'est un peu plus tard, oui, un peu plus tard, il y a eu une Gordon, mais ça, c'est dans les années. C'était avec Jean-Philippe Bouchaud qui nous a rejoints en 92, je crois. Donc, c'était un peu plus tard, la Gordon, où il y a eu des grosses discussions avec Daniel Fisher. Donc, au début du modèle des droplets, dans le monde des verres de spin, bon, je voudrais citer un autre laboratoire où il y a eu énormément de travaux expérimentaux, c'est celui de l'Université d'Uppsala. Uppsala, près de Stockholm, avec Leif Lundgren, qui est décédé depuis, Per Nordblad, qui est toujours plus ou moins actif, je pense. Et ils ont fait un travail formidable sur les verres de spin, à la fois comportement critique et puis les études de la dynamique. Et eux aussi ont été passionnés par le modèle des droplets, et ils ont même collé de très près à l'image des droplets, quoi. Ils se sont. Bon, je parte dans des choses trop affectives, mais disons que dans un sens, enfin, j'allais dire, ils cherchaient à faire coller le modèle des droplets avec leurs résultats. Non, c'est mal dit. C'est mal dit. Ce sont des gens qui ont une rigueur scientifique absolument totale. Hein. Ils avaient le modèle droplet en tête, un peu comme guide, quoi, dans leurs expériences. Et nous, assez vite, on a trouvé qu'il y avait des choses qui ne collaient pas avec le modèle de droplet. Et donc, ça nous a amené à regarder plus du côté de ce qui venait des résultats de champs moyens. Donc, je peux expliquer ça si vous voulez.
Oui, absolument.
Voilà. Bon, on a d'abord regardé des choses très simples à partir du modèle de droplet. Des lois du scaling, des lois d'échelle, des relaxations, ça ne marchait pas très bien dans le détail, on trouvait. Enfin bon, c'était peut-être pas très grave. Mais c'est l'époque 86-87 où on s'est mis à développer une nouvelle classe d'expériences qui était l'étude de l'effet des variations de température sur le vieillissement. Alors ça, J'aimerais faire passer un message, c'est qu'on ne l'a pas fait à partir d'une stimulation apportée par les théoriciens sous forme de l'arbre hiérarchique de Parisi. On l'a fait parce qu'on se posait une question très simple. Ces vers de spin, on les trouve toujours hors d'équilibre en dessous de TG. On étudiait, la première chose qu'on a étudiée et qui se faisait avant que j'arrive, qui était la thèse de Michel Alba, c'était les phénomènes de vieillissement. Voilà, l'effet du temps d'attente. On refroidit le ver de spin. Si on attend plus longtemps, eh bien, la dynamique est plus lente et les courbes de relaxation sont différentes. C'est un effet de temps d'attente qui s'appelle le vieillissement, aging. Et on se disait, mais enfin, comment est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'approcher, d'aider le ver de spin à s'approcher de l'équilibre? Quel truc on pourrait trouver? Par exemple, dans les vers structuraux, les gens tracent des courbes où ils montrent le volume effectif en fonction de la température. S'ils refroidissent brutalement, ils tombent complètement hors d'équilibre. S'ils refroidissent très lentement, ils sont un peu plus près d'un état d'équilibre. Donc, c'est ce qu'ils appellent les effets de cooling rate, de vitesse de refroidissement. Donc, on s'est dit, ça, c'était avec Philippe Réfrigier en 1986, je pense. On s'est dit, alors, si on essayait, la première manip qu'on a essayé, c'est de prendre un ver de spin, donc descendre légèrement en dessous de TG, et là, attendre très longtemps. Parce qu'on s'est dit, on est encore à pas trop basse température, tout n'est pas gelé, donc il va réussir à s'équilibrer, et puis après, quand on refroidira, on trouvera un système qui est plus proche de l'équilibre. Et la surprise, ça a été que d'attendre longtemps en dessous de TG, ça ne changeait absolument rien. En tout cas, dans la gamme de temps qu'on était capable d'explorer, quoi. Les courbes de relaxation présentaient les mêmes effets de vieillissement. Alors, à partir de là, on a imaginé des tas de protocoles de variation de température qui permettaient de tester. On s'est rendu compte que si on restait longtemps à une température, on mesurait les effets de vieillissement très bien, et puis qu'on descendait à partir de là à température un peu plus basse, on trouvait comme une sorte de relance du vieillissement. Comme un redémarrage du vieillissement. Ça n'est pas un redémarrage complet, mais c'est sur la fenêtre de temps qu'on observait, quoi. Les courbes de relaxation sont comme jeunes, comme rajeunies. Alors plus tard, on a appelé ça rajeunissement. C'est Jean-Philippe Bouchaud, je crois, qui a proposé le terme de rejuvenation. Voilà, ça rajeunit. Et puis, deuxième phénomène, après avoir attendu assez longtemps à un peu plus basse température, quand on revient à la température précédente, moyennant certaines conditions, on retrouve l'état qu'on avait laissé. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire de l'état précédent qui a été gardée, quoi. Alors ça, c'était vraiment très inhabituel. Et c'est là que... Moi, je crois que c'est venu de nous, les expérimentateurs. Hein. Je crois qu'on s'est dit... mais ça ressemble à quelque... Il nous faut un schéma qui soit... dissymétrique en température. Donc, si on pense à un arbre des états, un peu comme celui de Parisi, mais qu'on regarde non plus en fonction du recouvrement des états, mais on le regarde en fonction de la température, se développant vers des ramifications multiples quand on baisse la température, eh ben, on a là une image qui explique assez bien les phénomènes qu'on est en train de voir. Puisque quand on baissait la température, on créait de nouveaux états entre lesquels il y avait une nouvelle dynamique. Et puis, quand on remontait la température, on effaçait ces états précédents et on revenait à la répartition entre les états du dessus, quoi, et on avait la mémoire. Donc, ça semblait marcher impeccablement. Alors, évidemment, c'était un peu sacrilège que de parler d'arbres hiérarchique, puisque ça n'existait en tant qu'objet théorique et conceptualisé que en fonction que pour les états purs et puis gradués en fonction du recouvrement, de l'overlap. Nous, on regardait ça en fonction d'états métastables, parce qu'il n'y a que ça qu'on peut voir dans une expérience, et puis en fonction de la température. Donc le rapprochement paraissait hardi. Mais on a eu des discussions à ce moment-là avec Victor Dotsenko, parce que l'arbre hiérarchique tel qu'on l'a représenté en schéma dans beaucoup de publis, et vous l'avez repris sur votre page web, je pense qu'au départ, c'était un dessin de Victor Dotsenko. Et puis, on a discuté avec Mézard, qui était très intéressé, qui nous a aidé un peu à préciser tout ça. Philippe Réfrégier, donc, qui était en thèse à l'époque, lui était, je sais pas, il avait bien cette idée de brisure de symétrie des répliques en tête, et il a trouvé que c'était un bon guide pour la pensée, pour cette série d'expériences. Et il a été très moteur dans ces expériences qu'on a faites ensemble, mais je voudrais lui rendre hommage. Il a été très moteur là-dedans. Et on a un peu entraîné les autres. On a dit à nos collègues, écoutez, on va publier ça parce que c'est quand même très original. Bon, l'histoire de l'arbre, c'est un peu bizarre, mais peut-être les référés accepteront quand même, quoi. Et les collègues proches nous ont dit, oh là là, c'est pas sérieux, c'est pas mathématique. Alors on a dit quand même, on essaye. Et on a publié notre premier papier sur l'effet des variations de température sur le vieillissement en 1987 dans le journal de physique. Et c'est le premier. Je veux dire, les autres groupes expérimentaux, ils ont fait la même, ils ont étudié ces choses-là, mais plus tard quand même. Voilà comment on en est arrivé là. Alors après, il y a eu beaucoup de développement.
Le nom de Jean-Philippe est revenu déjà quelques fois. Comment est-ce que cette collaboration s'est développée quand il a rejoint le CEA?
Ah oui, alors ça a été très, très sympa et très stimulant. Bon, il a eu envie de rejoindre un labo expérimental. Ça a dû se passer en 92, je pense. Il était bien à l'école normale, mais il avait envie d'être dans. Ben, il y avait aussi des expérimentateurs à l'école normale. Il avait envie de changer d'air. Et donc, il est venu avec nous et il a été bienvenu. Et alors, immédiatement, il s'est intéressé de très près à tous nos résultats expérimentaux sur les vers de spin. Il y a eu un peu trois volets, quoi, sur lesquels il a fait d'ailleurs trois étapes de modélisation. Le premier volet, c'était qu'est-ce que c'est que cet effet de vieillissement? Qu'est-ce qui se passe en fonction de TW? Ça l'intriguait. Et il avait en tête quelque chose, c'est qu'il avait déjà travaillé sur des phénomènes de physique où il y avait des lois de probabilité avec des ailes larges, des lois de Lévy. Hein, des lois de puissance qui décroissent avec un exposant faible. Et il m'a expliqué à l'époque que des variables tirées suivant une loi de Lévy, quand on en fait la somme, eh bien, la somme est dominée par le plus long terme. Et que finalement, si on réfléchit au vers de spin comme un point dans un espace des états métastables, alors lui, il a appelé ça des pièges, les trappes. Un point qui se promène entre les pièges. Si c'est, il a trouvé des arguments pour dire que ces pièges pourraient être distribués suivant une loi large. Ça s'obtient assez facilement. Donc, si le ver de spin se balade d'un puits à l'autre, eh bien, pendant le temps TW pendant lequel on attend, finalement, il a passé l'essentiel de son temps dans le puits le plus profond. La somme de ces variables est dominée par la plus grande. Et ce puits le plus profond est de l'ordre du temps d'attente TW lui-même, quoi. Donc, il a construit comme ça un petit modèle de piège qui a donné une image permettant d'expliquer le vieillissement. Donc, ce n'était pas une image microscopique, il n'y avait pas de spin, mais c'était une image statistique. Alors, c'était vraiment très agréable de travailler avec Jean-Philippe parce qu'il s'intéressait vraiment de près aux résultats. C'est-à-dire qu'on a passé des heures assis ensemble devant mon ordinateur à regarder des courbes ou des tableaux de chiffres, à faire des fits, à changer des paramètres, à voir. Il a tout épluché dans le détail. C'était vraiment sympa d'avoir quelqu'un qui s'intéressait comme ça, quoi, puis qui avait un peu des idées en plus. Donc, on a continué sur cette voie. La deuxième étape conceptuelle avec lui, c'est que, bon, on avait fait des lois d'échelle du vieillissement où on disait, ce qui compte, c'est pas exactement le temps d'attente TW, mais c'est le temps d'attente avec un exposant mu, une puissance mu qui est un peu inférieure à 1. Alors, ça, entre parenthèses, c'était un résultat qui venait, des lois d'échelle sur le comportement mécanique des polymères. On va en reparler. Et bah, les polyméristes avaient établi ces choses-là depuis 19... Je pense à un bouquin de Struic en 1978, quoi. Donc les polyméristes avaient écrit des choses très claires là-dessus. Miguel Osio, dans notre équipe, avait bien compris tout ça. Et Miguel Osio avait développé donc des lois d'échelle qui rendaient très précisément compte du vieillissement dans les vers de spin en faisant intervenir une variable TW à la puissance mu, un exposant inférieur à 1. Et Jean-Philippe a dit ce TW puissance mu, ça ne va pas, ce n'est pas homogène dans une équation, il y a forcément à côté un temps à la puissance 1 moins mu pour que ce soit homogène du point de vue dimensionnel, quoi. C'était un argument de bon sens, il avait parfaitement raison. Donc il a dit, il y a une échelle de temps qui est cachée là-dedans. Alors on a réfléchi, et puis son idée, ça a été qu'un échantillon macroscopique, finalement, ça n'est pas forcément un bloc, un monocristal. Alors encore une parenthèse là, il existe des expériences qui sont faites actuellement sur des vrais monocristaux. Et c'est très intéressant. Et Horbach participe, enfin Horbach développe ça actuellement à l'Université du Texas. Bon, à l'époque, on parlait d'échantillons qui étaient multicristallins. C'était même une poudre en l'occurrence. Donc Jean-Philippe, il a dit, bon, on pourrait peut-être considérer l'échantillon réel comme une collection de grains, de sous-systèmes qui seront distribués. Bon, on va essayer de construire une distribution d'après les résultats. Il y en aurait des petits dans lesquels, au cours de TW, bah, finalement, on arrive à l'équilibre. Et puis, il y en aurait des plus gros où on n'arrive pas à l'équilibre. Et la combinaison des deux sur un TW fixé, ça se traduirait par ce TW puissance mu, qui serait donc multiplié par un autre temps à la puissance 1 moins mu, qui traduirait donc la saturation de certains des sous-systèmes. Et bah, on a fité les résultats avec ce genre d'idée, et ça a marché pas mal, et on a trouvé des estimations du nombre d'états métastables, des trucs comme ça. Bon, c'était assez rigolo. Et puis ensuite, le troisième volet avec Jean-Philippe, ça a été... mais c'est bien parce qu'il a procédé un peu méthodiquement, quoi. Le vieillissement, pourquoi cet exposant mu? Entre-temps, on faisait nos manips de variation de température, mais il disait ça, on y réfléchira plus tard. Et puis, avec les manips de variation de température, eh ben, il s'est mis à réfléchir un peu plus à son modèle de piège. Alors, à l'époque, il y avait David Dean aussi qui est maintenant prof à Toulouse, je pense, et qui est anglais, il venait de, je ne sais plus où, en Angleterre. David était à Saclay avec Jean-Philippe, et ensemble, ils ont développé un modèle de piège à plusieurs étages, avec des pièges dans les pièges, quoi. Donc, il y a eu un passage qui est un peu comme celui que Bernard Derrida a fait du REM au Generalized REM, au GREM, quoi. Donc, Jean-Philippe Bouchaud et David Dean ont fait un papier qui s'appelait Aging on a Paralysis Tree, quelque chose comme ça, où ils développaient ce modèle à étage qui permettait d'expliquer pas mal de choses.
À l'époque aussi, vous aviez des collaborateurs expérimentaux qui se sont développés avec Ray Orbach, entre autres, et éventuellement avec des groupes japonais, je pense, plus tard. Que vous nous décrire un peu comment ça se fait que votre centre collaborait si facilement au point de vue expérimental avec d'autres groupes comment ça procédait?
Ah bon, j'espère qu'on n'était pas les seuls quand même à être ouverts sur le reste du monde. Bon, avec Ray Orbach, ça s'est passé, ça a démarré, je pense, parce que Aman est allé faire un séjour postdoctoral chez Ray Orbach, qui était à UCLA à l'époque. Et puis, à partir de là, les relations se sont développées. Et Ray Orbach a envoyé un étudiant, ça devait être pour sa thèse, oui, Marcos Lederman, qui est venu passer, je ne sais pas, un an ou deux à Saclay. Alors, Ray Orbach a été très intéressé aussi. Bah, il a développé parallèlement Après, on peut regarder les dates pour savoir qui a pensé à quoi en premier, hein, c'est une autre histoire. Mais disons, en gros, en parallèle, il a développé ce qu'il a appelé un modèle de barrière, quand Jean-Philippe développait un modèle de piège. Donc là, au lieu d'avoir une collection de pièges, c'était des états pris entre des barrières, mais tous les états étaient au même niveau, et puis il y avait les barrières. Et Rehorbach a modélisé les manips avec ce système de barrières, et ça a assez bien marché. Il a essayé aussi de comprendre ce qui se passait avec les variations de température, et il a proposé que ces barrières changent d'amplitude en fonction de la température. Vous voyez, il y a deux choses. On peut imaginer un paysage fixe, donc des états métastables. Quand la température change, on est capable d'explorer des barrières plus ou moins hautes. Mais une autre chose est que quand on change la température, peut-être ces barrières changent aussi. Et alors, il avait cette idée que les barrières croissent quand on baisse la température. Et on a développé toute une série de manips avec lui, où on a essayé de mesurer la croissance des barrières en fonction des changements de température. Et donc ça a été une manière de reproduire les résultats expérimentaux sur les changements de température. Et puis, comme le fit de ces barrières a conduit oui, il y avait des On a trouvé qu'il y avait des familles de barrières qui divergeaient à toutes les températures. C'était ça. À chaque température en dessous de TG, certaines barrières divergeaient. Et quand on baissait la température, d'autres barrières divergeaient. Donc, avec ça, il a reconstruit, en somme, cet arbre hiérarchique expérimental, dont l'extrapolation, quand les barrières divergent, nous ramène à la structure des états purs, qui eux sont séparés par des barrières infinies. Donc, il a fait des choses très très précises là-dessus. Il a introduit l'overlap. Enfin, il y a eu des choses. Bon, Rehorbach, c'est un théoricien très intéressé par les expériences, mais donc il a pu faire des modélisations assez complexes de tout ça. Et il a été très moteur pour ces expériences-là. Alors, il y avait des expériences chez lui, d'abord à UCLA, puis à Riverside, après il a été à Riverside. Et il y avait des expériences chez nous, et donc il y avait un peu des échanges d'étudiants. Moi, je suis allé une fois à Riverside, bon, pour une période courte. Ben voilà. Ah oui, alors l'autre chose qui facilitait les collaborations, et c'est là qu'on peut parler des Japonais aussi, c'est que il y a eu beaucoup de on a eu plusieurs réseaux à l'époque. Il y a eu des collaborations, en particulier il y a eu des collaborations financées par les Japonais, par le ministère de l'Éducation, le Monbusho, ça s'appelle. À l'époque, ils étaient très généreux et ils offraient. Peut-être, je pense qu'il y avait une volonté de pousser les chercheurs japonais à développer leur collaboration avec le reste du monde. Donc, ils mettaient pas mal d'argent dans des réseaux qui nous permettaient de faire des rencontres avec des gens de plusieurs pays européens, avec les Japonais et avec les Américains. Alors ça a été vraiment, vraiment intéressant, quoi. Ça a été formidable. Alors, par ailleurs, mon laboratoire avait déjà des contacts depuis longtemps avec certains Japonais, le professeur Miyako, qui avait été à l'université de Sapporo, puis qui était venu à Osaka. Miguel Osio est allé très souvent, dans mon groupe, est allé très souvent travailler avec Miyako à Osaka. Patrick Parry, le grand cryogéniste de notre laboratoire, allait aussi aider les Japonais à mettre au point leur frigo à très basse température. Donc il y avait déjà des échanges comme ça, et là-dessus, les réseaux se sont construits assez facilement. Alors il y avait toute une partie réseau européen sur laquelle je peux revenir. Et puis, il y avait les gens de l'université d'Osaka, il y avait Seiji Miyashita, qui était à Osaka et puis qui ensuite est devenu prof à Tokyo. Alors moi, personnellement, j'ai développé plus de collaboration avec Seiji Miyashita en particulier, parce qu'il avait, il avait fait sa thèse avec le professeur Suzuki autrefois sur les systèmes frustrés. Il avait écrit des choses sur la susceptibilité non linéaire des vers de spin, sur les réseaux triangulaires Kagome, tout ça. Donc, on avait des points d'intérêt communs. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de relations avec Miyashita et il s'est mis à m'inviter au Japon pratiquement tous les ans. Je suis allé depuis 91 jusqu'à je ne sais pas quand. Je suis allé presque tous les ans, passer 15 jours dans le labo de Miyashita au Japon. Voilà. Mais bon, ça c'est plus pour ce qui concerne ma recherche personnelle, mais pour l'avancement des questions sur la brisure des symétries des répliques telles qu'on la voit dans les expériences, c'était plutôt ces rencontres de réseau qui étaient vraiment chouettes, quoi. À la fois, on a financé, ils ont financé des rencontres qui pouvaient se faire au Japon, à Tokyo, à Kyoto, à Osaka, qui pouvaient se faire en France, on en a fait à Paris et ailleurs, et on en a fait aux États-Unis. Rurback nous a organisé un truc en Californie qui était très sympathique, Lake Arrowhead, un très bel endroit. voilà, alors ça discutait énormément. Et puis, il y avait dans toutes ces discussions, pas les oubliés, hein, les Suédois d'Uppsala, le groupe de Lundgren au départ, Leif Lundgren, mais il est décédé, et puis de Per Nordblad ensuite. Et là-dessus, il faut dire un mot, donc c'est que il y a eu des discussions très serrées entre Uppsala et Saclay pour savoir si c'était plutôt les droplets ou plutôt une image hiérarchique qui permettait de comprendre les résultats. Alors, ça a été vraiment très intense et à un moment, Per Nordblad a proposé d'envoyer chez nous un étudiant en thèse, Christian Jonasson, pour qu'on travaille vraiment de près sur des manips qu'on faisait vraiment ensemble, quoi. Donc ça a été très chouette. Et on a réussi, comment dire, à se mettre d'accord. Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail de tout ça maintenant, à moins que ça vous intéresse, mais disons, on a développé un langage commun à partir de là. Bon, on a fait des publications, on a fait plusieurs publications en commun avec Jonasson et Nordblad qui ont suscité pas mal d'intérêt, semble-t-il. Et
Alors,
puis
qu'est-ce
du côté
que...
des...
Oui.
Oui. Et du
Je
côté des
pense...
réseaux, oui, je voulais dire, il y a une dimension, les réseaux européens aussi. Hein. Je ne m'attarderai pas si vous voulez qu'on abrège, mais on a beaucoup bénéficié. Il y a eu un réseau financé par l'ESF au départ, European Science Foundation, qui s'appelait Sphinx, qui était dirigé par David Charrington. Et ça nous a permis de nous rassembler avec tous nos collègues européens très régulièrement. Et après ce réseau, il y en a eu un autre qui s'appelait Diglage-Mem, je pourrais vous l'appeler, et qui était dirigé par Parisi, et qui a permis aussi beaucoup de rencontres. Donc ça c'est vraiment un contexte qui est chouette, quoi. Quand les gens peuvent beaucoup confronter leurs résultats, discuter, bah, les choses avancent, quoi.
Et à ce moment-là, vous étiez plus en interaction avec les théoriciens de champs moyens, ou ça, à travers ces réseaux-là, ou ça demeurait surtout des
Oui.
confrontations expérimentales?
Ah, bon, c'était beau. Oh, ben, non, c'était les deux. C'était les trois, on va dire, avec les numériciens, quoi, hein, parce que les simulations numériques ont commencé à pas mal se développer. Donc, c'était les trois. Voilà, c'était bien que les expérimentateurs, Horbach, les gens d'Uppsala, les gens de Saclay, soient amenés à confronter leurs résultats. Et c'était bien d'en discuter avec des gens comme Mézard en particulier, oui, pour voir un peu où on allait. Mais je voudrais dire, vraiment la démarche qui nous a amenés vers l'arbre hiérarchique, elle a été cette idée toute bête que, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver des procédures en température qui amènent le vers de spin à l'équilibre ou qui l'approchent, quoi. Alors on augmente, on diminue, et quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a quelque chose de dissymétrique en température. Donc il faut quelque chose comme un arbre hiérarchique. C'est ça qui s'est passé. Et les théoriciens comme Marc Mézard ont été très amusés et intéressés de voir qu'il y avait une image comme ça qui sortait des manips. Donc, ils ont eu envie de voir un peu. Bon, ils ont poussé le truc. Ah, il y a d'autres. On n'arrive pas à se souvenir de tout le monde au moment où on parle, hein, malheureusement, mais deux noms qui me reviennent aussi, là, c'est Laetitia Cugliandolo et puis Jorge Corchan, qui sont des gens avec qui on a beaucoup interagi aussi. Ils ont passé du temps à Saclay, avec Laetitia, on a mis au propre plusieurs papiers en commun sur les parlant des résultats, expliquant les résultats des vers de spin.
Si j'ai bien compris, dès 1995, plus ou moins, vous avez pris la responsabilité du laboratoire de Hamann. Est-ce que c'est bien le cas? Donc, officiellement, je pense que la transition s'est faite en 2000.
Je prends mes notes. Oui, le groupe. Oui, non, c'est ça. Non, il y a le groupe et puis il y a le service qui regroupe plusieurs équipes, quoi. Alors, Hamann, ça devait être en... Oui, en 1994, j'ai noté que je suis devenu chef de groupe. Ça veut dire simplement que Hamann est devenu chef de service et qu'il était occupé, qu'il pouvait plus s'occuper de la gestion de l'équipe. Mais l'équipe, c'était en particulier Miguel Ossio, qui connaissait bien plus de choses que moi. Et moi, je faisais l'administration du groupe, mais je n'étais pas celui qui disait qui doit faire quoi. Hein. C'était un petit peu, c'était plus collégial que ça, quoi.
OK, donc vous n'aviez pas pris un peu la direction intellectuelle à ce moment-là ou pas pu...
Non, on peut pas. On peut pas voir ça comme ça.
Parfait.
Non, Miguel Ossio, à cette époque-là, a développé toute une catégorie de manips dont on a à peine parlé, là, qui sont les manips de mesure des fluctuations spontanées de l'aimantation. Il a fait une première campagne de manip avec Hélène Bouchia et Philippe Monod dans les années 86-88, qui ont donné quelques bons résultats. Et puis, il a repris ça plus tard, donc plutôt vers 98-2000 peut-être, pour la thèse de Didier Hérisson, avec des systèmes, une manip beaucoup plus sophistiquée qui lui permettait d'explorer des régimes temporels beaucoup plus larges. En deux mots quand même, dans la première campagne de manip sur le bruit, ils avaient essentiellement mesuré des transformés de Fourier du bruit. Dans la deuxième campagne de manip avec Hérisson, à la fin de la vie d'Ossio, ils étaient capables de mesurer le bruit directement et de calculer sa fonction de corrélation sur toutes les échelles de temps qui les amusaient. Ils ont donc pu explorer des régions temporelles beaucoup plus larges qu'avant. Alors, dans ces problèmes de dynamique non stationnaire, il y a toujours deux temps qui interviennent. Et donc, d'avoir les traces de bruit et de pouvoir calculer les corrélations entre n'importe quelle valeur des deux temps, ça ouvre à explorer toute la dynamique du vers de spin. Donc, ils ont fait un travail remarquable sur l'observation des écarts à fluctuation-dissipation dans le régime vieillissant. Ils ont mis en évidence ces écarts. Et puis, il y avait là un soutien théorique très important, en particulier de Laetitia Cugliandolo, de Silvio Franz, de Mézard. Et donc, ça, c'était vraiment très chouette. Alors, vous voyez, quand ces trucs-là se développaient dans l'équipe, ce n'était pas moi qui étais en train de les impulser. Hein. Je découvrais ça émerveillé, et puis voilà, quoi. Je faisais l'administration du groupe. C'était aussi simple que ça.
Vous avez quand même resté dans le milieu des vers de spin plusieurs décennies. Qu'est-ce qui a gardé votre intérêt actif à travers tout ce temps?
Ouais. C'est la question, c'est
qu'est-ce qui a gardé votre intérêt actif
pendant tout ces... qui... Ouais, alors ça c'est marrant. J'ai fait d'autres choses. J'ai tenté de quitter les vers de spin et j'y arrivais pas finalement. C'est assez marrant. J'ai étudié les nanoparticules magnétiques. Ça, c'est assez rigolo. Vous voyez, celles qui sont dans les ferrofluides, mais éventuellement, si elles sont isolées, bon, c'est un petit peu différent. Et quand elles sont en interaction, elles finissent par se comporter comme un ver de spin. C'est-à-dire que c'est un ver des superspins qui sont portés par la nanoparticule. Donc, j'ai commencé sur ce sujet-là et puis j'ai terminé avec en particulier Sawako Nakamae. On a caractérisé le comportement vers de spin dans les systèmes de nanoparticules. Bon. Dans les années 87-89, est arrivée la supraconductivité à haute température. Alors là, on avait les outils pour regarder le magnétisme. C'était intéressant, vous vous souvenez de ces supras, enfin, ils ont une structure lamellaire, donc c'était très intéressant d'étudier des monocristaux, parce que les propriétés dépendaient beaucoup de la direction. Mais les seuls monocristaux que les gens arrivaient à faire la première année, en 87, ils étaient minuscules, ils faisaient quelques microns. Nous, on avait les outils pour regarder ça. Alors, j'ai fait des séries de manip avec Amann en particulier sur des tout petits monocristaux d'Ibacuo, de composés comme ça. Donc ça, c'était une problématique différente de celle des vers de spin, mais quand même, par exemple, Miguel Osio, à partir des supras, a développé des expériences sur les aspects vers de jauge, c'est le vers, vous savez, un supra granulaire, il y a des courants qui se développent dans les grains, et l'ensemble de ces courants forment ce qu'on appelle un vers de jauge. Il y a des gens qui ont fait des théories là-dessus, Michel Gingras par exemple, et Miguel Osio a fait des tas de belles manips là-dessus aussi, avec les Russes aussi, c'était Misha Fegelman qui était très intéressé avec ça, et qui travaillait avec Osio. Donc voilà un exemple d'autres sujets qui est allé progressivement vers les vers de spin aussi. Moi, j'ai fait un peu de fermions lourds, de trucs comme ça. Et pourquoi l'intérêt sur les vers de spin est resté? Ben, je sais pas, à plusieurs moments, je me suis dit, on m'a dit, il faut que tu fasses un peu autre chose, quoi. Donc, j'ai fait autre chose. Et puis, en même temps, ce sujet continuait à être vivant. Je sais pas, il y avait toujours des interactions avec des gens, il y avait des résultats qui paraissaient. Donc ça s'est jamais arrêté, quoi. Et maintenant, je suis à la retraite, hein, je fais plus d'expérience depuis une dizaine d'années. Et puis aussi, les dernières années de ma carrière, je les ai passées plutôt à avoir des responsabilités d'organisation. Donc j'ai un peu lâché les expériences depuis assez longtemps. Mais ma curiosité personnelle sur ce sujet est restée intacte. Alors du coup, je regarde ce qui se fait, j'ai plaisir à écouter des séminaires ou à discuter avec les collègues qui sont actifs. Et j'ai écrit un ou deux papiers de revue à l'occasion parce qu'on m'a demandé, quoi. Ça m'a amené à m'intéresser d'autant plus près aux résultats actuels. Et je sais pas, je trouve ça intéressant. Stimulant.
À Saclay ou ailleurs, avez-vous déjà eu la chance ou l'occasion d'enseigner sur les vers de spin ou la brisure de réplique, la symétrie des répliques?
Alors, j'ai enseigné, mais pas là-dessus. Vous me voyez encore, c'est bien, peu importe. Il y a la lumière a baissé, donc c'est plus flou, mais moi, je vous vois bien. C'est parce que, bon, c'est la fin d'après-midi en France. Moi, j'ai été appointé comme chercheur à plein temps, donc je n'étais pas obligé d'enseigner. Mais il y a eu des occasions où on m'a proposé de faire un cours et que j'ai accepté. Alors, dans le vrai enseignement classique, parce qu'il y a les écoles, par exemple, dans des écoles d'été, oui, j'ai fait des cours sur les vers de spin, hein, à Bégrohu, et puis dans une école d'été au Luxembourg. Mais ça, c'est pour un public de chercheurs, en somme. Le vrai enseignement, celui de l'université pour les étudiants qui sont en cours de cursus, j'en ai fait un peu en magnétisme essentiellement. Alors j'en ai fait à une époque à l'université qui était Paris 6, Jussieu, plutôt dans des laboratoires de chimie avec Marie-Paul Pileni, qui faisait un travail dans son groupe, il faisait un travail très intéressant sur les nanoparticules magnétiques, et elle m'avait demandé de venir expliquer comment on fait des expériences en magnétisme, qu'est-ce que c'est que des courbes ZFC, FC, comment on peut caractériser des nanoparticules, parce qu'elles sont aussi hors d'équilibre. Hein. Il y a un gel super paramagnétique, il y a un gel qui peut être de type vers de spin si elles sont en interaction. Donc ça, j'ai pu enseigner un peu là-bas. Au départ, c'était des cours pour son groupe, et puis elle m'a intégré dans un DEA où elle était prof, et pendant pas mal d'années, j'ai fait un cours dans ce DEA. Par ailleurs, à l'école centrale dont je suis originaire, J'ai saisi une occasion à un moment, c'était en 1999. Ils ont demandé quelqu'un pour faire des cours sur le. On n'appelait même pas ça le nanomagnétisme, mais ils appelaient ça le magnétisme des couches minces. Mais quelqu'un à l'école centrale avait compris qu'il y avait peut-être des choses qui allaient se passer dans ce domaine et a pensé qu'il pourrait y avoir un cours là-dessus. Alors, j'ai démarré un cours de magnétisme des couches minces qui a très vite tourné au nanomagnétisme, c'est-à-dire quelles sont les propriétés du magnétisme à l'échelle nanométrique, qu'est-ce qui change. Et puis, alors, sont arrivées les histoires de magnétorésistance géante, le prix Nobel donné à Albert Fert. Alors là, il y a eu un boom d'intérêt sur le sujet. Et donc, j'ai développé ce cours, je l'ai orienté vers les développements vers la spin. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut renverser l'aimantation en faisant simplement circuler des électrons? Comment on peut les polariser, dépolariser? Et tous les développements que vous connaissez, quoi. Et j'ai fait ce cours jusque, il y a quelques années. Je l'ai interrompu juste avant la crise du Covid. Et comme ça, parce que je trouvais que bon, j'avais un peu fait le tour de la question. Et donc, je l'ai continué assez longtemps après avoir pris ma retraite. Et je me suis arrêté donc en 2019, ce cours. Et j'ai bien fait, parce que l'année suivante, il y avait le Covid. Et les gens se sont mis à faire des cours à distance, dans des conditions qui étaient vraiment pas très sympas, quoi.
Francesco, une question?
Oui?
Pardon. Alors, on approche la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a quoi que ce
Oui.
soit qu'on a négligé de couvrir que vous pensez qu'on devrait discuter sur cette époque, sur ce travail?
Non, on a fait le tour de pas mal de choses. Je suis assez bavard, hein, vous avez vu ça. Ça part facilement quand vous posez une question. Écoutez, il y a sûrement des noms que j'ai oublié de citer, et je le regretterai après, mais on les rajoutera à l'écrit si ça me revient. Non, on a fait le tour des principaux concepts, peut-être, enfin concepts que les expérimentateurs comme moi ont pu rencontrer dans leurs travaux et qui ont un lien avec le sujet qui vous intéresse, qui est cette brisure de symétrie diréplique. On a pas mal parlé du contexte de la recherche, des collaborations. C'est vraiment, il n'y a rien de pire qu'un chercheur qui reste tout seul dans son laboratoire et qui est le seul à savoir ce qu'il fait, quoi. Même s'il fait des choses géniales, s'il est le seul à savoir, c'est trop bête, quoi. Donc vraiment, encourager les gens à se rencontrer, à discuter, c'est chouette, quoi. Puis en plus, ça fait voyager. Moi, j'ai aimé voyager dans ma carrière et je continue à voyager, d'ailleurs.
Alors, en conclusion, avez-vous toujours des notes, des papiers ou de la correspondance de cette époque? Et si oui, est-ce que vous avez un plan pour les déposer dans une archive académique à un point ou à un autre?
Alors, les papiers, non, pas grand-chose. J'ai gardé deux, trois cahiers de manip en souvenir, mais franchement, c'est inutilisable du point de vue archive, je pense. J'ai gardé par contre les données des expériences étaient enregistrées. J'ai plus ou moins gardé tous les fichiers de données, je pense. Mais les plus anciens sont difficilement exploitables parce que vous savez, il faut reconstituer les procédures expérimentales et tout ça. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit très utilisable. Il y a une chose quand même que Giorgio Parisi avait demandé et qui est disponible. C'est un CD-ROM que j'ai largement dupliqué, qui contient toutes les données des manips de bruit de Miguel Osio et de Didier Hérisson. Parce que Giorgio Parisi, on n'a pas beaucoup parlé de lui, mais lui aussi, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse de près aux résultats, quoi. Donc, j'ai eu la chance de le rencontrer dans des colloques. Bon, à l'occasion, il est venu à Saclay aussi. Ouais, il est venu à Saclay. Et dans les colloques, il avait envie de temps en temps de s'asseoir à une table et d'éplucher les résultats en détail en posant toutes les questions possible pour tout comprendre, quoi. Donc ça, c'était vraiment très intéressant de parler avec lui. Il s'est beaucoup intéressé aux effets de rajeunissement et mémoire. À un moment, il parlait d'oblivion, mais je crois on n'a rien écrit là-dessus, finalement. Et donc, quand Ossio a fait ses manips de bruit, ça l'a beaucoup intéressé, et il a dit « Mais moi, je voudrais avoir ces traces de bruit pour jouer avec sur mon ordinateur. » Alors, on lui a fait un CD, et je ne sais pas ce qu'il en a tiré, mais ça existe. Et puis…
Et la correspondance
Alors, la correspondance… Oh, les mails, moi, j'ai plus ou moins des archives de mails, effectivement, mais si vous voulez, quand même, il y a énormément de discussions qui sont nécessaires pour faire avancer le travail, et puis à la fin, ce qu'il en ressort et qui sera vraiment utile, ça peut être assez limité. Et ce qui est ressorti et vraiment utile, c'est dans les publications, en principe. Ça, vraiment, ça a été vérifié, et puis on peut le défendre, quoi. Donc, je ne sais plus quelle autre personne dans son interview a dit « Moi, mes archives, c'est les publications ». Bon, je trouve que c'est un peu ça quand même, quoi. Quand on arrive à 15 ans, 20 ans après, les choses sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer et remonter dans le passé, c'est ce qui est écrit dans les publications. Parce que chaque mot a été pesé, chaque équation a été vérifiée par le référé, ça a été lu, si ça a été contredit, c'est écrit quelque part. Bon, à mon avis, c'est ça, quoi. Mais je peux éventuellement trouver quelques datas stockées quelque part, si quelqu'un veut, ouais. Dont celle de bruit de Miguel Ossio.
Merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous, les questions étaient intéressantes.